Présent, nous avons vu dans le livre des Lamentations de Jérémie comment un homme, en l'occurrence Jérémie, s'adresse à Dieu dans une requête de prière et il fait mention d'une expérience vécue lorsque dans les Lamentations de Jérémie, chapitre 3, verset 57, il peut déclarer « Du jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché. Et tu as dit, ne crains rien. » Alors que Jérémie s'était manifesté autant comme un plaidoyer, il avait exposé sa cause, et en même temps qu'il exposait sa cause comme un plaidoyer, il manifestait aussi ce qui ressemble fortement à un réquisitoire, victime de l'injustice. Et puis, nous avions qualifié ce message avec l'expression qui découle de l'Écriture, une divine approche accompagnée d'une parole dite à propos. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché, dira-t-il. Donc, Dieu s'est approché parce qu'il connaissait la situation de son serviteur. Dira-t-il, tu as vu ceux qui m'ont fait souffrir. Ils m'ont jeté dans une fosse. Ils ont jeté des pierres sur moi. Enfin, il va crier à Dieu dans ce qu'il expose, la situation qu'il vit. C'est un homme éprouvé, c'est un homme souffrant. Et malgré tout ce que nous pourrions trouver comme qualificatif pour accompagner ce qu'il dit vivre, ce qu'il a vécu, il dit ce qu'il vit. Cependant, frères et sœurs en Christ, malgré tout ce que nous pourrions penser, c'est un homme qui est dans le plan de Dieu. Mais oui, il est dans le plan de Dieu. Il est dans le plan de Dieu. Ça peut sembler étonnant. Comment dans le plan de Dieu, je me retrouve au fond d'une citerne? Dieu le permet. Mais dans ce que nous pourrions tirer comme référence dans le Nouveau Testament, l'apôtre dit dans Romains 8, 28, ça vous le connaissez, ce sont comme des classiques évangéliques, hein. Nous savons du reste que toute chose, dites avec moi, concourt. Connaissez vos classiques. Concourt à quoi? Au bien de ceux qui aiment Dieu. N'est-ce pas? Mais qui sont aussi appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Afin que son fils soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, dites avec moi, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés les a aussi glorifiés. Donc ça veut dire que, regardez le processus, hein. Dans tout ce que nous vivons, vivrons, la finalité, c'est que Dieu nous glorifie en Jésus-Christ. Alors, mon frère, ma sœur, nous serons d'accord avec les Saintes Écritures. J'estime, dit l'apôtre, voilà, les légères afflictions du moment présent ne sauraient être comparées au poids de gloire éternelle qui nous est réservé dans les cieux. Vous savez, Jésus avait compris ce principe, il avait compris ce principe qu'avant la gloire, il y avait la croix. Nous voudrions la gloire, mais quelquefois, Nous oublions que Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, s'il veut venir, donc une volonté délibérée, qui constitue une acceptation, se charge chaque jour de sa croix. Qu'il me suive. Lorsqu'on se charge de sa croix, ça veut dire qu'on a accepté la crucifixion. Ceux qui sont à Jésus-Christ, dit la Bible, ils ont crucifié la chair et ses passions. Frères et sœurs en Christ, la vie chrétienne, elle est belle. Malgré tout ce qu'on pourrait dire, on est joyeux d'appartenir à Jésus. Et quand on est attaché à notre maître, nous ne sommes pas au rang de ceux qui se laissent si facilement ébranler. Mais le travail du maître qui nous a pris en main, c'est d'amener par toutes les expériences que nous ferons avec lui, dans sa main, comme enfant du Père, que nous soyons de plus en plus affermis. Si vous lisez le psaume 57, vous voyez que le psalmiste, à un moment donné, après avoir commencé à crier à Dieu dans l'épreuve, après que le Seigneur eut répondu, il va mentionner quelque chose qui ressemblerait fortement à la leçon retirée de l'épreuve. Il commence par dire, je crie au Dieu très haut qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Il est au fond d'une caverne, poursuivi par un ennemi sanguinaire qui ne cherche qu'à le détruire. Et puis, lorsqu'il crie à Dieu, quant au secours dont il a besoin, à un moment donné, il change de langage pour montrer que Dieu est intervenu. Ils avaient tendu un filet sous mes pas. Ils avaient causé une fosse. Ils y sont tombés. Et là, il mentionne, mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi. Cela veut dire, il a tiré conséquence de la situation, mais à son bénéfice. Mais c'est exactement ce que Dieu poursuit lorsqu'il nous forme comme ses enfants. Mais oui, nous sommes dans sa main. On n'est pas toujours conscient de ce qu'il fait. Mais il a cette capacité de mettre tout à profit pour notre avancement spirituel, que son nom ce soir soit béni. Alors, nous allons regarder dans le livre des Proverbes. Savez-vous que dans le livre des Proverbes, comme dans toute l'écriture, il y a de nombreuses richesses. Des richesses merveilleuses pour notre âme, pour notre vie comme enfant de Dieu, jusque dans le déroulé du livre des Proverbes, nous voyons qu'il y a, de la part de celui qui en est l'auteur, en l'occurrence Salomon, plusieurs aspects de la révélation de l'Écriture. Par exemple, si nous regardons, non, si nous savons lire l'Écriture, nous verrons que dans les Proverbes, du chapitre 1er jusqu'au chapitre 7, il y a tout un tas de conseils paternels destinés au Fils de la Sagesse. Fils de la Sagesse, image de Jésus, divin Salomon, Jésus, et nous qui sommes enfants de la Sagesse, l'Église. Puis, nous voyons que la sagesse, dans les conseils paternels, la sagesse avertit. Mais aussi, il est mentionné à partir du chapitre 2 que la sagesse délivre du mal. Puis, nous voyons que la sagesse, dans le chapitre 3, la sagesse récompense. Oui, frères et sœurs en Christ, dans le chapitre 4 et Dans la continuité, nous voyons plusieurs aspects énoncés dans l'Écriture. Puis, si nous allons un petit peu plus loin, nous voyons qu'à partir du chapitre 10 du livre des Proverbes, eh bien, il y a la sagesse et la crainte de l'Éternel qui sont opposées à la sagesse humaine et aussi au péché. Donc, je vous donne ces informations pour que nous arrivions à la lecture que nous allons partager dans le chapitre 18, verset 9. Puis, jusqu'au chapitre 24, c'est le même processus. Nous voyons qu'il y a des contrastes qui sont exposés entre la justice et la méchanceté. Donc c'est un combat, comme un combat d'opposition entre la justice et la méchanceté. Et c'est dans ce cadre-là que dans Proverbe 18, au verset 9, nous entendons cette déclaration de cet homme de Dieu, Salomon, celui à qui Dieu a donné la sagesse, une sagesse particulière, spéciale, divine. Et le voici qui déclare dans Proverbe 18, verset 9. Lisez avec moi. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Pas besoin d'aller plus loin, ça suffira pour commencer. Mais elle est très significative. Hein? Celui qui se relâche dans son travail, son ouvrage, son travail, il est frère de celui qui détruit. Cela veut dire que frères et sœurs en Christ, ce que nous venons de lire, loin de nous amener à regarder à notre voisin, à côté de nous, eh bien, c'est une interpellation personnelle que le Saint-Esprit voudrait que nous nous appliquions à nous-mêmes. Alors, est-ce qu'en lisant cela, Dieu veut me faire comprendre ou veut m'amener à saisir, Claude, en tant qu'enfant de Dieu, d'expérimenter la grâce de Dieu et le salut? Désormais, une fois que tu es devenu enfant de Dieu et que je te fais lire ce texte, que celui qui se relâche dans son travail, il est frère de celui qui détruit. Désormais, il faut que tu comprennes qu'en Christ, tu dois être toujours au top. Oui, on peut dire amen. Et en disant amen, nous allons adhérer à ce que nous pensons être un mode de fonctionnement. Mais dans la réalité, c'est pas tout à fait ça. Car si je fais un sondage ce soir, je suis sûr du résultat avant même que je pose la question. Quel sondage, pasteur gentil? Qui, depuis qu'il est devenu enfant de Dieu, a toujours été sur le plan spirituel au top? Levez la main. Donc, ça veut dire, frères et sœurs en Christ, quand nous lisons l'Écriture, après, il faut que nous soyons intelligents pour comprendre ce que Dieu veut que nous saisissions. Regardez avec moi, frères et sœurs en Christ, comment dans l'Épître aux Galates, une église qui était fervente, une église où malheureusement s'étaient infiltrés certains faux docteurs et qui avaient amené Malheureusement, une doctrine étrangère à laquelle avaient adhéré certains Galates et qui était dans l'Église devenue une source de conflit. Qui fait que l'apôtre, au chapitre 5, Galates 5, au verset 7, sera conduit à leur dire, Galates 5, 7, vous couriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Et vous remarquerez qu'il n'a pas dit vous courez bien. Il n'a pas dit vous courez bien. Lorsqu'on court bien, ça veut dire c'est lorsqu'on est au top. Et là, il a dit vous couriez bien. Ça veut dire il peut employer ce terme pour ceux qui couraient avant et qui ne courent plus. Ah, quand on est au top, on court, on a de la ressource, on avance. Mais à un moment donné, lorsque nos ressources s'amenuisent, mais l'allant que nous avions auparavant, malheureusement, elle s'amenuise. Mais est-ce que parce que l'allant s'amenuise, je suis disqualifié? Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Je ne suis pas disqualifié. Mais j'ai besoin que mes ressources soient renouvelées. Amen. Oh, ce soir, il y a beaucoup qui ont besoin que leurs ressources soient renouvelées. Moi, le premier. Comment ça, vous, pasteur gentil, vous êtes pasteur? Oui, j'ai besoin que mes ressources soient renouvelées. Rassurez-vous, hein, je ne suis pas dans un moment de décadence, pas du tout. Mais je me mets comme le premier à manifester mes besoins parce que je sais qu'en Jésus-Christ, de la part du Père, eh bien, la source, elle est toujours abondante. Amen. Voilà. Vous courriez bien, Galates. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Et cette question qui est posée dans ce chapitre 5 au verset 1er nous oblige aussi à regarder ce qui est mentionné dans le même chapitre, mais au verset 1er. Car ce que l'apôtre déclare ici, et nous pourrions même rajouter le verset 8, hein, pourrions même rajouter cette déclaration du verset 8, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Donc si cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle, elle a bien une origine. Mais l'origine, ce sont les faux docteurs qui se sont infiltrés et qui ont mené une doctrine erronée qui, malheureusement, lorsqu'elle s'infiltre dans une église, eh bien, l'ennemi de notre âme, qui est toujours très subtil dans ses œuvres, ne veut pas manquer de grignoter du terrain dans la vie de certains afin que tout doucement, ayant adhéré à cette doctrine, eh bien, ça laisse comme une porte ouverte. Une brèche. Et s'il y a une porte ouverte et une brèche, par cette ouverture, l'énergie s'en va. Et quand l'énergie s'en va, si la brèche n'est pas colmatée, à un moment donné, les choses deviennent beaucoup plus difficiles. Regardez le verset premier, Galates 5, 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Un thème qui est fort. Il parle d'affranchi. Après affranchi, il parle d'affermi, ou demeurer ferme. Et après, voici qu'il mentionne comme conséquence directe qui doit découler de ma fermeté, ne pas me laisser de nouveau mettre sous le joug de la servitude. Le terme est fort. Mais lorsqu'il parle de servitude, c'est pour dénoncer la mise à nouveau ou la remise à l'esclavage. Esclavage, esclave, ce qui le caractérise, c'est son absence de volonté propre et l'obligation qui lui est faite d'accepter la volonté d'un autre. Et progressivement, frères et sœurs en Christ, vous savez, quand l'ennemi grignote, il n'a qu'un désir, c'est nous ramener à ce que nous avons vomi. Et il a une subtilité qui est la sienne, il emploie, et l'un des aspects de sa subtilité va consister à nous entraîner tout doucement à minimiser les conséquences. Un petit peu, ça c'est rien ça. Il nous fait descendre de notre position spirituelle pour minimiser les conséquences de certaines choses que nous accepterions dans nos vies, que nous tolérerions dans un premier temps, jusqu'à nous amener à tomber dans cette complaisance. Et cette complaisance, elle a une particularité, c'est de produire à ma chair ce qui la satisfait. Et j'ignore que ce qui satisfait ma chair est contraire à la logique divine pour mon âme. Écoutez, ce soir, Jésus ne me fait pas de leçon de théologie. Jésus n'est pas en train de me donner une leçon de théologie. Il est en train de m'amener à des choses pratiques. Galates 3, verset 1er. Toujours en ne négligeant pas ce que j'ai lu en premier, celui qui se relâche dans son travail, il est frère de celui qui détruit. Et je trouve qu'il y a une subtilité dans les paroles de Salomon, mais que je ne peux discerner, c'est quand le Saint-Esprit me rend intelligent. Vous voulez que je vous la partage? Oh, vous n'êtes pas trop convaincant, hein? Oui, oui! Mais écoutez, si je lis et que je comprends le fil conducteur de la pensée de Salomon, est frère de celui qui détruit, je suis obligé d'aller à la parole de Jésus concernant l'ennemi. Dans Jean 10, l'ennemi ne vient que pour égorger, détruire. Donc cela veut dire que derrière cet aspect-là, il y a à ne pas négliger une ruse de mon ennemi. Mais oui, c'est sa ruse qui est là. Galates 3, verset 1er. Oh Galates, dites avec moi. Vous êtes dépourvus de sens. Frères et sœurs en Christ, quand je lis ça, l'apôtre dit Galates dépourvu de sens. À qui s'adresse-t-il? À qui s'adresse-t-il? Vous savez pas à qui l'apôtre s'adresse? Des gens d'église comme nous. Ce sont des frères. Les Galates, ce sont des frères. Ils ont été enseignés. Ils connaissent Jésus. Ils ont la connaissance de l'Écriture. Mais malgré tout, leur comportement et leur attitude fait que l'apôtre mentionne les concernant aux Galates dépourvus de sens. Ça veut dire que quand vous êtes dépourvu de sens, vous avez perdu le bon sens. Et si vous avez perdu le bon sens, vous allez obligatoirement être dans un non-sens. Et vous savez, lorsqu'on perd le sens, eh bien, on est semblable à quelqu'un qui a perdu la raison. perdu la raison, le sens.
Ou plutôt,
si nous voyons la manière de fonctionner de quelqu'un qui est hors de sens,
pour lui, son attitude est conforme à ce qu'il vit à l'intérieur. Vous savez, il est dans sa normalité. Et il estime qu'au dehors, alentour de lui, tous ceux qui sont autour de lui, ce sont eux qui sont hors de sens. Mais lui, il est dans son sens et il est dans son bon sens.
Mais dans la réalité, il est hors de sens. C'est-à-dire, il a l'attitude d'un fou. Quelquefois, frères et sœurs, le terme de l'apôtre est fort. Pourquoi? Parce que quelquefois, quoiqu'étant des enfants de lumière, quoiqu'étant des enfants de Dieu, quoique connaissant Jésus-Christ, quoiqu'étant attaché à lui, il y a quelque chose qui, non pas à partir de ce que je suis en Christ, dans l'homme nouveau, mais dans ma vieille nature, me fait avoir le comportement de celui qui est hors de sens. Galates, comme en vous, à qui Christ a été dépeint comme crucifié, à qui vous avez adhéré dans le commencement, Christ dont vous avez confessé le nom, Christ avec qui vous êtes engagé en passant par les eaux du baptême, Christ qui vous est enseigné par les conducteurs spirituels. Comment avez-vous pu adhérer à un autre évangile? Comme s'il y en avait un autre. Puisque la doctrine de ces faux docteurs, je vais vous la livrer, consistait en ceci. Certes, vous avez obtenu le salut, mais pour le mériter et bien le vivre, il faut vous faire circoncire. Donc, imagine un petit peu ce qu'était un service dans l'église de Galates. Ça avait pris une telle ampleur, c'est que lors d'un rassemblement, ça chuchotait. Tu t'es déjà fait circoncire? L'autre disait, mais non, c'est parce que la Bible dit, c'est parce que Jésus dit. Ah oui, mais faut le faire. Donc ça veut dire que ça partait dans tous les sens. De telle manière que c'était devenu tellement particulier que l'apôtre sera conduit à le déclarer, mais si vous vous mordez les uns les autres et vous dévorez les uns les autres, point de garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Béni soit Dieu, ça se passe pas à Rencontre Espérance. Du moins, pas à ce niveau. Car si quelqu'un se permettait cela au milieu de nous, il manifesterait de manière probante sa méchanceté. Or, la Bible dit que le méchant ne subsiste pas dans l'assemblée des justes. C'est pas nous les pasteurs qui le mettrions dehors, mais le Saint-Esprit le dénoncerait rapidement. Ça va toujours? Bien. Alors nous allons maintenant voir, frères et sœurs en Christ, après avoir mis en place le sujet, bien que ça a pris un petit peu d'ampleur, le Saint-Esprit a conduit dans des pensées qui sont très explicites et qui nous amènent à notre pensée initiale. Celui qui se relâche dans son travail, il est frère de celui qui détruit. À un moment donné, c'est pourquoi l'apôtre dira, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Saignez les reins de votre entendement. Or, j'ai beau chercher où se trouvent les reins de mon entendement. Oh, là, j'ai saigné mes reins pour que mes pantalons soient bien ajustés. Donc, j'ai besoin de ma ceinture. Mais les reins de mon entendement, c'est autre chose. L'entendement, c'est l'ensemble de mes facultés psychiques. Mon esprit, ma raison, mes pensées. Saignez! Avec quoi je le sais, pasteur? Avec la ceinture de la vérité, les saintes écritures, la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu sème mon esprit, il y a un travail qui se fait à l'intérieur et qui va faire fort souvent que mes pensées soient harmonisées avec les Saintes Écritures. Principe découlant de ce que la sagesse produit, la crainte de l'Éternel qui amène la réflexion accompagnée du discernement. Cela veut dire, frères et sœurs, dans ce cadre-là, nous avons tous des progrès à faire. Tous. Mais où je me réjouis, malgré le fait que nous ayons des progrès à faire, c'est que nous sommes dans la main du Maître. Vous n'êtes pas dans la main du pasteur, hein? Nous sommes dans la main de Jésus. Et malgré tout ce que je vous dis ce soir de la part du Seigneur, malgré le niveau de compréhension de certains, malgré la réception dans les cœurs de la parole, il n'y a que le Maître qui a commencé dans chacun de nos cœurs, dans nos vies, cette bonne œuvre, comme dit l'apôtre, et qui a le pouvoir de la rendre parfaite pour le jour de son retour. Gloire à Dieu. Allez, frères et sœurs en Christ. Entre autres causes du relâchement, j'ai noté, entre autres, causes du relâchement, je l'ai appelé la lassitude. Dans la vie chrétienne, il peut arriver que la lassitude produise en moi le relâchement. Il y a des moments de la vie chrétienne où on peut être fatigué. Je ne parle pas autant de la fatigue physique. Je ne parle pas non plus de la fatigue morale. Mais je parle plus de la fatigue spirituelle. Fatigue spirituelle qui pourrait se traduire ainsi ou être définie, notez bien, comme un manque de ressources spirituelles. Continuer à s'exprimer par une perte progressive d'intérêt pour les choses spirituelles. Ça peut arriver. Mais le danger qui produit cette lassitude, c'est lorsque ça dure. Oh, laissez-moi vous dire que dans ce cadre-là, moi je ne juge personne, hein. Dieu ne m'a pas établi pour être juge. Le Seigneur m'a établi pour pouvoir enseigner sa parole, donner à ses enfants la nourriture autant convenable. Mais pour que je donne la nourriture autant convenable, il faut bien que le Saint-Esprit m'amène sur le terrain où Dieu veut communiquer sa pensée, n'est-ce pas? Et dans la vie chrétienne, je vous le dis, frères et sœurs en Christ, entre autres, qui conduira au relâchement, c'est un manque de ressources spirituelles. Ou quand les ressources spirituelles sont en baisse, lassitude, cela va produire un manque d'intérêt pour les choses d'en haut. Lassitude, ça peut être aussi le résultat de déceptions que j'ai essuyées dans ma vie comme enfant de Dieu, dans l'Église. Avec un frère, avec une sœur. Déception qui a mené à moi cette réflexion, si c'est dans la vie chrétienne, je préfère rester chez moi. Satan applaudit, dit, ah, c'est ce que j'attendais, il est content. Il a réussi à t'amener sous son terrain. Donc cela veut dire que derrière cette décision que tu as prise, parce que tu as été déçu, alors tu vas te retrouver au rang de ceux qu'on qualifie comme étant rétrogrades. Et le Saint-Esprit va venir à la charge pour te dire, quoi, l'Écriture? Il va te rappeler qu'il est écrit, n'abandonnez donc pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais donc, dans ton raisonnement, tu vas opposer ton attitude ou
ta pensée
à la pensée de l'Esprit de Christ. C'est ce qu'il va faire. Oh, dans un premier temps, il va être attristé à l'intérieur de toi. Mais, comme Dieu veut avoir le dernier mot, il va revenir à la charge. Il va te redire la même chose. Il est écrit, n'abandonne pas ton assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Il va revenir à la charge jusqu'à ce qu'il triomphe de ton esprit et mette la pensée de Dieu dans ton cœur pour que tu sois là. Et peut-être ce soir, tu es là. Alors le Seigneur profite pour te donner une parole d'encouragement. Dans ce cadre-là. Celui qui se relâche dans son travail, il est frère de celui qui détruit. Et je ne veux pas être frère de celui qui détruit, hein, car si je suis frère de celui qui détruit, je suis en train de faire exactement le travail de l'ennemi de mon âme. Donc Jésus donne quelques caractéristiques dans les Saintes Écritures. L'ennemi ne vient que pour égorger, pour détruire. Gérard a dit qu'il est heureux, moi je suis heureux, hein, Gérard. Et ma joie, c'est de vous communiquer la pensée de Dieu. Même si elle ne plaît pas à notre vieille nature. Vous savez, ce qui déplaît à ma vieille nature réjouit l'homme nouveau. Relâchement. Déception. Et vous savez ce que produit, frères et sœurs en Christ, le relâchement? Mais le relâchement est un avant-coureur d'une particularité qui précède le profond sommeil, on l'appelle l'assoupissement. Oui, car plus la vieille nature me conduit dans le relâchement, tout doucement, plus la fatigue spirituelle s'installant, progressivement, il y aura une espèce d'assoupissement. Alors, la Bible dit que l'assoupissement fait porter des haillons. L'assoupissement fait porter des haillons. Or, si c'est pas agréable de porter des haillons sur le plan humain, c'est aussi désagréable de porter des haillons sur le plan spirituel. Parce que Dieu m'a pas habillé de haillons, il a habillé mon âme de sa justice. Gloire à Dieu! Je vous donne une lecture à partager avec moi dans ce cadre-là. Et nous allons voir comment le Saint-Esprit, au travers la bouche, justement c'est l'apôtre Paul, il la partage avec Timothée dans un cadre précis. Et vous allez bien me suivre dans ce que nous allons partager, car c'est très important de comprendre ce que Dieu veut que nous saisissions. Oh, c'est une parole que vous avez souvent entendue de la bouche du pasteur Gentil, parce que ce sont des choses qui correspondent un peu aux besoins des âmes, des enfants de Dieu, dans certains moments où notre Seigneur, dans sa grâce, désire les fortifier. De Timothée, le chapitre premier. C'est ça. De Timothée 2, 1. De Timothée 2, 1. Toi donc, mon enfant. Après, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus. Christ. Dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi aux autres. Donc là, nous sommes sur un terrain particulier, car Timothée était le serviteur de Jésus-Christ, engendré par l'apôtre Paul, parce que Paul dira qu'il se réjouissait de la foi qui était en Loïs, Eunice, etc. Cette foi-là était en lui. Et parce que cette foi était en lui, Paul l'exhortera à souffrir avec lui comme un vrai serviteur de Christ, comme un soldat de Jésus-Christ. Parce qu'il dira qu'il n'y a pas de soldat qui, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, eh bien, s'embarrasse des affaires de la vie. Et ce que nous venons de lire, « Toi donc, mon enfant Timothée, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Mais l'apôtre le situe comme étant une conséquence directe de l'exhortation qu'il lui avait adressée dans le chapitre premier, où il lui dira entre autres, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer quoi? La flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Donc, Paul avait prié pour lui en lui imposant des mains et il avait reçu la vie de l'Esprit en lui. Donc, Paul était quelqu'un d'actif dans la vie spirituelle de Timothée, n'est-ce pas? Dieu l'avait utilisé pour qu'il soit un instrument dans la main de Dieu pour Timothée, intronisé, rempli de l'Esprit, etc. Mais il était conscient aussi qu'à un moment donné, les ressources de Timothée étaient amoindries. Alors il exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu qu'il a reçu. Et vous remarquerez qu'il n'a pas dit, c'est pourquoi il faut que Dieu ranime la flamme en toi. Non, je t'exhorte toi à ranimer la flamme. Ça veut dire dans ce cadre-là, tu as ta part à faire. Et l'une des parts que nous avons à faire, dans le cadre de ce que Dieu veut que nous partageons ce soir, c'est agir pour colmater les brèches. Agir pour fermer des portes que malencontreusement nous avons laissées ouvertes, où le destructeur a pénétré. Il a commencé à grignoter. Et tout doucement, nous voyons qu'il y a des choses qui malheureusement, à partir de notre vieille nature, sont en train de reprendre place. Car ce n'est pas la peine qu'on essaie de jouer la comédie, Dieu connaît chacune de nos vies. Pour ma part, moi, pasteur gentil, votre frère, qui n'est pas meilleur que vous, j'ai aussi une nature humaine. Et quand j'ai cru en Jésus pour le salut dans les premiers temps, il y avait une ferveur spirituelle en moi, une vie de l'esprit qui faisait qu'on voulait tout casser, tout briser. On était déterminés. Ça, c'est bien. C'est pas mal. Mais béni soit Dieu. Le Seigneur a permis que les choses soient par sa main contrôlées. Car si on a une vie de l'esprit et que les choses ne sont pas contrôlées, on peut faire quelquefois beaucoup de dégâts. Et nous risquons, au lieu d'être profitables, de devenir à certains aspects nuisibles. Mais malgré cette ferveur, béni soit Dieu. Et vous serez d'accord avec moi quand nous sommes faits du même bois. Eh bien, j'ai pu constater qu'à un moment donné, des choses que j'avais abandonnées quand j'ai cru pour le salut, ils se sont mis à courir après moi pour me rattraper. Mais oui, ils se sont mis à courir après vous pour vous rattraper, parce que la vieille nature, elle aime ce qui est à elle. Elle est attachée à ses valeurs, et lorsque vous fermez une porte par là, elle essaie d'entrer par la fenêtre. Vous fermez la porte, elle veut passer sous la porte. D'où l'importance d'une vigilance accrue et d'un discernement spirituel pour que nous puissions, par la grâce que Dieu nous fait, vous êtes avec moi? ne pas nous relâcher dans notre travail. Car c'est le processus qui découle de la vie de sanctification. Supposons que j'ai à cœur d'ensemencer mon terrain. Je vais commencer par défricher, après je vais labourer, je vais faire des sillons, et une fois que tout a été préparé, alors je vais ensemencer. Mais supposons que ce terrain que j'ai défriché, que j'ai labouré, eh bien, je le laisse maintenant, j'ai dit, bon, je vais ensemencer plus tard. Je vais ensemencer dans 6 mois. Mais quand je reviens 6 mois plus tard, ce terrain que j'avais défriché, que j'avais nettoyé dans le but, que j'avais labouré dans le but d'ensemencer, ne sera pas autre chose qu'un terrain vague. Où malheureusement, a repris vie tout ce que j'avais enlevé. Qui c'est qui l'a semé? Personne ne l'a semé, mais la terre a produit cela d'elle-même. Vous savez ce que c'est la terre? Ma vieille nature et tout ce qui est en elle, qui ne demande qu'à prendre vie, qu'à s'exprimer. Et j'ai noté aussi dans ce cadre-là un autre exemple. C'est le même processus d'un lieu abandonné. Si le lieu est abandonné, c'est-à-dire c'est pas fréquenté, que se passe-t-il dans ce lieu-là? Plus vous passez à l'encre, vous allez voir que plus vous marchez dans ce lieu, il va se former un petit sentier. Mais si vous arrêtez d'y marcher, obligatoirement, c'est le même processus. Ça va se recouvrir de ronces et d'épines. Oh, je suis passé près du champ d'un paresseux. Je suis passé aussi près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et j'y ai prêté attention. Et en prêtant attention, j'ai regardé attentivement. Et voici, le mur de pierre était écoulé. Si le mur de pierre est écoulé, ça veut dire qu'il y a danger concernant la sanctification. Le mur de pierre va séparer mon champ de celui du voisin. Séparation. Séparation, protection. Si le mur est écoulé, ni protection, ni séparation. Après, les ronces et les épines ont couvert la surface. Pourquoi? Il n'y a pas d'activité. Alors ce qui est mauvais, non seulement reprend vie, mais cela aussi s'étend. Couvrez la face. Et quand j'ai regardé attentivement de ce que j'ai vu, j'ai tiré la leçon. La leçon? Un peu croiser les mains pour dormir. Un peu se relâcher. Et la disette te surprendra comme un homme en a. Et la pauvreté comme un rôdeur. Cela veut dire qu'il y a toujours, dites avec moi, des conséquences. Mais si je manque, il y a toujours des conséquences. Le relâchement a toujours des conséquences. Celui qui se relâche dans son travail, il est frère de celui qui détruit. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Et aussitôt après, nous allons le voir qui va donner à Timothée toute une série d'au moins 13 exhortations qui seraient en quelque sorte le résultat produit ou ce qui va découler de la flamme du don de Dieu ranimé. Souffre avec moi comme un bon soldat. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi. Retiens dans la foi le modèle que tu as en moi. Donc, autant d'exhortations qui seraient le résultat de lorsque tu auras ranimé la flamme du don de Dieu. Vous avez dit que Dieu me fait comprendre au travers de ce que je partage, qu'il n'est pas d'accord de bénir les fainéants.
Mais dès lors qu'il voit que j'ai de la bonne volonté et que je suis docile, et que je comprends ce qu'il veut, que je comprenne et que je me mets... Ah, l'apôtre Jacques! Mais celui qui aura plongé son regard dans la loi parfaite, dit l'apôtre, et qui n'étant pas un auditeur oublieux se mettra à l'ouvrage, celui-là sera heureux dans son activité. Je veux être heureux dans mon activité, ne pas être frère de celui qui détruit, alors je ne veux pas me relâcher dans mon travail. Mon travail, une vie de prière, les jeunes waters. Mon travail, une vie de piété, en cherchant les choses d'en haut. Si véritablement vous êtes ressuscité avec Christ, Colossiens 3:1. Cherchez, affectionnez, attachez-vous. Mais ça, je ne peux le faire que si le Saint-Esprit est actif en moi dans l'homme nouveau. Car lorsqu'il dit, si véritablement vous êtes ressuscité avec Christ, c'est ce qui découle directement de la nouvelle naissance. Frères et sœurs en Christ, ce soir, nous avons ouvert un peu un volet parce qu'il y a encore des choses que je dois vous dire dans ce cadre-là, mais le Seigneur Jésus-Christ permettra que nous regardions un peu plus près. Après la lassitude, il y a la séduction. Après la séduction, il y a la ruse. Après la ruse, il y a aussi la culpabilité qui est un frein. Et puis, il y a aussi un aspect particulier de la séduction. Mais nous y verrons un peu plus clair la prochaine fois. Car c'est un terrain à défricher. Mais je crois qu'au travers de ce que Dieu nous a dit ce soir, beaucoup ont de quoi déjà travailler, n'est-ce pas? Mais oui, Dieu nous donne toujours de quoi travailler. Hein? Écoutez, quand vous étiez à l'école, le maître ne vous donnait pas des exercices à la maison? Mais oui. Et quand vous veniez, il fallait représenter l'exercice pour pouvoir montrer que vous avez travaillé à la maison. Alors si le maître le faisait, le divin maître le fait aussi. Il nous donne des éléments pour travailler. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur.